7h10 ici à Paris.
7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Aujourd'hui, comment enseigner dans des classes surchargées? Si l'éducation est un artisanat, alors chaque enseignant, dans sa solitude, cherche à concocter les meilleures recettes ou système D pour faire face à l'explosion de la démographie scolaire. Dans les pays développés, on observe en moyenne moins de 30 élèves par classe. Il faut compter largement plus du double dans les écoles primaires en Afrique. Les enseignants du continent sont confrontés à un défi quotidien. Comment faire cours à près de 90 élèves? Comment les interroger? Comment aider ceux qui sont en difficulté? Comment corriger les cahiers le soir? Nous attendons bien sûr vos témoignages, les voisins, si vous êtes enseignant ou parent, et vos questions. Parce que dans le studio de RFI, j'ai le plaisir d'accueillir Abou Fofana, spécialiste des classes surchargées à l'école normale supérieure d'Abidjan. Bonjour Abou Fofana.
Bonjour.
Vous êtes de passage en France. On est très content de vous accueillir dans l'émission. Vous publiez un guide pour adapter son enseignement aux effectifs des écoles primaires. En Afrique, en Côte d'Ivoire, combien d'élèves en moyenne par classe au primaire?
Alors la moyenne est de 53 élèves par classe.
C'est ça, c'est une moyenne, ça peut aller beaucoup plus loin.
Oui, bien sûr, ça va beaucoup plus au-delà dans certaines localités où on en a 80 voire 100 élèves, 30 élèves par classe.
François Robert sera au téléphone avec nous, il est expert de l'éducation en Afrique, il nous expliquera pourquoi les classes africaines sont tellement saturées, avec quelles inégalités. Et puis on fera également un point sur la rentrée scolaire dans le nord du Mali où de nombreux enseignants manquent à l'appel et résultat là aussi des classes de parfois plus d'une centaine d'élèves pour un seul maître. Je vous rappelle notre numéro de téléphone pour nous appeler, participer à l'émission sur les classes surchargées, 33 1 84 22 71 71. Mais tout de suite, revenons sur la rentrée scolaire dans le nord du Mali avec en direct notre correspondant à Bamako. Bonjour David Bachet.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous les voisins et les voisines.
Vous étiez il y a quelques jours dans la région de Gao, 7 octobre, jour de la rentrée scolaire pour tout le Mali. C'est la seconde rentrée scolaire depuis que les régions du Nord ont été libérées de l'occupation islamiste. Alors comment s'est déroulée cette rentrée dans le Nord, David?
Écoutez, les choses s'améliorent progressivement, donc les conditions sont meilleures que l'année dernière. Mais c'est toujours très difficile. Côté infrastructure, d'abord, ça c'est vraiment mieux. Vous vous souvenez que le Nord a été occupé par des groupes islamistes pendant près d'un an, c'était jusqu'en janvier 2013. Les écoles avaient été pillées, saccagées, les tables et les bancs avaient servi de bois de chauffe, les équipements avaient été volés, des salles détruites ou dégradées par le manque d'entretien. Alors aujourd'hui, la plupart des bâtiments a été reconstruite ou rénovée, notamment grâce au soutien de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui a également rééquipé les écoles. Nous retrouvons la voie de la normalisation, me disait le directeur de l'académie de Gao, Amadou Degeni.
La voie de la normalisation scolaire, donc avec aujourd'hui tout de même un problème crucial, David, le manque d'enseignants dans certaines zones rurales. Écoutez le directeur de l'école du village de Fafa, dans le cercle d'Ansogo, à environ 150 kilomètres de Gao.
C'est Assoumane Hassan Diallo, directeur de l'école second cycle Fafa. La rentrée a eu lieu le 7 octobre. Comme partout au Mali, les premiers jours, ils étaient tous là, les élèves, 136 élèves. Est-ce que vous voyez? Et jusqu'à nos jours, un seul enseignant, je ne l'ai pas rencontré ici. En principe, il doit avoir 5 enseignants. Un chargé de français, un chargé de maths, un chargé d'anglais, un chargé de biochimie et un chargé de SEM. Je suis le seul ici présent. C'est dans ce contexte qu'on nous demande de préparer un examen qui va se tenir nationalement. Ce matin, par exemple, à votre arrivée, j'ai rassemblé et la 7e, et la 8e, et la 9e dans une même classe. Je suis le seul ici présent.
David Bachet, le directeur de cette école de Fafa à 150 km de Gao, dans le nord du Mali, était à votre micro. Aujourd'hui, David, avez-vous des chiffres sur les professeurs qui manquent dans le nord du Mali?
Alors, pas de chiffres officiels, mais j'ai demandé d'autres estimations à d'autres professeurs qui sont confrontés à ce même problème. Le directeur adjoint du centre d'animation pédagogique d'Ansongo, région de Gao, donc, me disait que sur 426 enseignants, seuls 275 étaient présents. Ashkunin Ag Idaliala, conseiller d'orientation à Menaka, c'est toujours dans la région de Gao, estimait quant à lui que 30% des professeurs manquaient à l'appel dans sa localité. Donc voilà, encore une fois, ce ne sont pas des statistiques officielles à grande échelle, mais bon, ça donne quand même la mesure du problème.
Et ce problème, David, il a une cause, c'est l'insécurité.
Oui, l'insécurité qui provoque la peur et qui n'incite pas les enseignants à venir prendre leur poste. Il faut dire que si la sécurité semble globalement assurée dans la ville de Gao, les zones de brousse qui sont plus reculées et où circulent les groupes armés restent particulièrement dangereuses. On l'a vu ces dernières semaines avec la multiplication des attaques terroristes dont ont été victimes les casques bleus de la mission des Nations Unies.
Résultat, David, on a des salles de classe qui sont pour le moment fermées.
S'il n'y a pas de professeur, il n'y a pas d'école. Ça, c'est logique. Ce ne sont pas mes mots, ce sont ceux de Sidi Khalil Haidara du centre pédagogique d'Ansongo. Il est très inquiet à l'idée, je le cite encore, que des enfants qui ont déjà perdu 2 années scolaires, à cause de l'occupation islamiste, donc puis de la guerre de reconquête, vont encore rester dehors.
David, on parle de surpopulation dans les classes dans le nord du Mali. C'est pas le seul problème du nord, c'en est un également.
Oui, parce que du coup, puisqu'ils ne peuvent pas aller à l'école dans leur village, beaucoup d'élèves se dirigent vers les écoles des localités qui sont jugées plus sûres, et c'est particulièrement vrai dans la grande ville de Gao. Il a même fallu construire en urgence des salles de classe temporaires pour accueillir les effectifs supplémentaires. La situation sera donc davantage gérable grâce à ces constructions, mais les professeurs là-bas seront quand même parfois obligés d'accueillir une centaine d'élèves pour une salle de classe. Ça va les obliger à faire des rotations. Dernière chose, je voudrais aussi signaler que le gouvernement malien a débloqué des fonds pour rééquiper l'académie. L'UNICEF a organisé aussi des distributions de kits d'enseignement, du matériel, des aliments pour les cantines. Il y a des cours qui ont été organisés avant la rentrée, avant même la rentrée, pour permettre aux élèves qui sont déplacés et réfugiés et de retour, ceux qui avaient fui l'occupation islamiste et qui sont de retour aujourd'hui, de se remettre à niveau avant de retrouver le cursus normal. Et puis des formations ont été dispensées aux professeurs, par exemple sur la prise en charge de ces enfants qui ont été traumatisés par la crise. On a demandé aux enfants de faire des dessins, me racontait Amadou Degani, directeur de l'Académie de Gao. Ils n'ont décidé que des fusils et des mains coupées.
Merci beaucoup David Bachet pour ce point sur la rentrée scolaire dans le nord du Mali et le manque crucial d'enseignants. Vous êtes en direct de Bamako, les voisins, les voisines. Bien évidemment, on revient à notre sujet central aujourd'hui. Comment enseigner dans ces classes surchargées, quelles que soient les raisons de ces classes bondées. 33 1 84 22 71 71. Abou Fofana, vous êtes enseignant ivoirien. Votre pays a également connu les classes surchargées à cause de l'insécurité, de la guerre et des mouvements de population.
Tout à fait. Dans la période de crise, au plus haut point de la crise, il y avait effectivement le problème de surcharge des classes qui avaient refaire surface, parce qu'une bonne partie de la population s'était déplacée vers le sud.
Et avait quitté leur poste, les enseignants.
Tout à fait, pour les enseignants, les déplacements des populations, donc les écoles d'Abidjan étaient surpeuplées. Et aussi dans le nord du pays, la partie centre où j'ai mené une enquête, le peu de maîtres qui restaient, finalement, devraient s'occuper de l'ensemble des élèves et du coup, on avait des classes à effectifs très surchargées.
Aujourd'hui, bien sûr, la sécurité est revenue. Néanmoins, les classes surchargées sont un phénomène récurrent, Côte d'Ivoire, partout sur le continent africain. Nous sommes en ligne avec François Robert. Bonjour François Robert.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes consultant en éducation pour des gouvernements, pour des organisations internationales. Vous êtes spécialiste de l'école en Afrique. Vous tenez d'ailleurs un blog sur le sujet qui s'appelle La République des tables bancs. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres sur le continent africain par cette surcharge d'effectifs d'élèves qui rend l'enseignement parfois impossible?
Alors, cette surcharge d'élèves, ces sureffectifs, on les voit dans tous les pays d'Afrique subsaharienne. Aucun pays n'est épargné. Il y a toujours quelques écoles, en particulier dans les banlieues, qui connaissent ce phénomène-là. Ceci dit, dans certains pays, ça peut atteindre une sorte de généralité ou des paroxysmes. Je pense par exemple au Tchad. J'ai vu des classes de 150 enfants en cours préparatoire en pleine ville, à N'Djamena, à la Guinée, qui a aussi des effectifs très spectaculaires dans les banlieues de Conakry. Mais de façon générale, ça existe dans tous les pays, et dans chaque pays, on voit ce phénomène, surtout dans les banlieues des capitales et des grandes villes.
Et est-ce qu'il y a des niveaux, des années plus touchées que d'autres, à l'intérieur même de l'école primaire ?
Malheureusement, oui. Les directeurs d'école ont tendance toujours à privilégier les grandes classes, les classes d'examen, les classes de CM2, les 6e années primaires, et à déshabiller les classes de cours préparatoires. Donc on va trouver facilement des classes pour les petits de 6 ans, 7 ans, des classes dont l'effectif est le double de l'effectif qu'on va trouver dans les classes d'examen.
Donc là, il y a vraiment intérêt à s'accrocher, hein, quand on a 6, 7 ans, qu'on découvre l'école pour la première fois de sa vie, qu'on est dans une classe de plus de 90 élèves. C'est un phénomène qui touche davantage les villes, les villages, François Robert ?
Je dirais les banlieues. Les banlieues
des grandes capitales.
Les banlieues des capitales et des grandes villes. On a des mouvements démographiques très puissants en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest, avec beaucoup de migration de population vers les routes goudronnées, vers les villes moyennes et vers les grandes villes. Et les autorités n'arrivent pas à suivre ça, donc ne construisent pas suffisamment de bâtiments scolaires à ces endroits-là. Ils les construisent, mais toujours avec retard. Et c'est à ces endroits-là, vraiment, qu'on va trouver les effectifs les plus grands. De temps en temps ailleurs aussi, mais c'est vraiment les banlieues qui sont les premières victimes.
Abou Fofana, vous confirmez aussi pour les banlieues d'Abidjan ?
Absolument.
Hein, les quartiers populaires ?
Absolument, dans les quartiers populaires, effectivement, les effectifs sont très élevés dans les classes.
François Robert, finalement, c'est le grand revers de la médaille des conséquences des objectifs du millénaire de l'éducation pour tous, ça a fait rêver toute la planète, et puis aujourd'hui, il y a embouteillage.
Aujourd'hui, il y a embouteillage. Alors, il y a en même temps un fort désir d'école de la part des populations et des familles. Et les familles auraient peut-être envoyé leurs enfants à l'école, même s'il n'y avait pas eu ces mots d'ordre de la communauté internationale, de l'UNESCO et des grands bailleurs de fonds. Mais le fait est qu'il y a une demande sociale pour l'école qui est très très forte, et les gouvernements courent derrière et n'arrivent pas toujours à offrir des conditions d'accueil convenables.
Et à recruter suffisamment d'enseignants. Je vous livre, Abou Fofana et François Robert, quelques témoignages. On a reçu énormément de témoignages sur les réseaux sociaux, sur la situation des classes surchargées en Afrique. Une voisine à Antananarive, Madagascar. Les classes surchargées sont notre quotidien. Dans la classe de mon petit garçon, à 11e, ils sont une bonne soixantaine dans une petite pièce sombre. Et pourtant, cette école est soi-disant l'une des meilleures de la capitale. Roussel à Yaoundé, au Cameroun. Primaire bondée, classe de seconde, 120 élèves de terminale. Classe de seconde, 120 élèves, terminale, 109. C'est compliqué, mais c'est tellement ancré dans le système que lorsqu'on voit que dans certains pays, on parle de surcharge pour 30 élèves, ça nous semble vide. Ça, c'est le petit clin d'œil pour l'Europe. Hein. François Robert Abou Fofana, pour le secondaire aussi, là, on a une augmentation énorme des effectifs pour les lycées, les collèges. François Robert ?
Alors moi, je dirais, c'est pas nouveau, mais surtout sur les collèges, je pense que dans tous les pays, on a mal aux collèges en ce moment. Ça vient de deux choses, c'est-à-dire que l'accès à l'école primaire s'est beaucoup amélioré. Et puis le fait que beaucoup d'enfants arrivent maintenant à la fin de l'école primaire, c'est beaucoup amélioré pendant la dernière décennie. Donc on a des proportions de classe d'âge, des cohortes, des groupes d'enfants beaucoup plus massifs qui rentrent dans les collèges aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Or, la priorité donnée à l'école primaire par justement tous les mots d'ordre sur la scolarité primaire universelle, l'éducation pour tous, etc., fait qu'il n'y a pas eu d'argent pour le secondaire pendant des années et des années. Les gouvernements n'ont pas pu tellement investir. On leur aurait tapé sur les doigts s'ils avaient trop investi dans le secondaire. Et aujourd'hui, le parent pauvre des systèmes éducatifs africains, c'est le secondaire et en premier lieu le collège, avec des situations qui peuvent être des fois très alarmantes dans la plupart des capitales.
Quand vous dites on n'a pas investi dans le secondaire et les gouvernements se seraient fait taper sur les doigts, sous-entendu par les bailleurs de fonds, par les financeurs de l'éducation, ça veut dire que les bailleurs de fonds n'ont absolument pas anticipé le déplacement des élèves qui allaient à la fin de l'école primaire, évidemment, rester à l'école et arriver dans les collèges. On n'a pas anticipé ces politiques-là.
On en avait bien conscience, mais on a vraiment orienté la plus grosse part des financements sur l'école primaire pour aller très vite dans des mesures d'accès, parce qu'il y avait ces fameux objectifs du millénaire.
Je vous lis un autre témoignage, celui de Mahamat Anjamena au Tchad. Les classes surchargées, c'est surtout dans les écoles publiques. L'an dernier, en terminale A, nous étions 212 élèves, sans devoir ni interrogation. Dieu merci, j'ai quand même eu mon bac, mais avec beaucoup de difficultés. Je crois qu'on peut lui dire bravo, hein, Mahamat.
Ouais.
Draman à Bouaké, Côte d'Ivoire, c'est chez vous, Abou Fofana. Je suis instituteur en CM2 dans une école publique. Il y a 84 élèves dans ma classe cette année. Au-delà de 70 personnes, c'est trop dur de gérer. La seule solution qu'on a trouvée, c'est la double vacation. Classe est divisée en deux groupes. Hein. Un groupe vient le matin, l'autre le soir. La semaine suivante, le groupe du matin vient le soir et vice-versa. C'est regrettable car ils font deux fois moins de cours, mais le manque d'infrastructures nous y oblige. Alors, la fameuse double vacation ou la rotation, hein, c'est la solution, c'est la panacée, François Robert ?
Non, c'est un pis-aller. C'est un pis-aller parce qu'à la fin, il manquera quand même beaucoup d'heures à la fin de l'année aux enfants qui ont subi cette double vacation.
Abou Fofana ?
Oui, je voulais dire que même dans le cas de la double vacation, on revient aux classes pléthoriques bis, puisque au lieu d'avoir deux classes à effectifs réduits, finalement, les effectifs augmentent et finalement, on a deux autres classes à effectifs pléthoriques.
Un directeur d'école qui a une classe avec plus de 80 élèves, il divise en deux, d'accord ?
Tout à fait,
rotation.
C'est cela.
Donc ça fait 40 et 40, 40 le matin, 40 l'après-midi.
Oui, normalement, ça dit de façon théorique, mais après on se rend compte qu'on se retrouve avec 80 fois 2.
Parce qu'il y a d'autres, toujours plus de familles
toujours
qui viennent inscrire leurs enfants.
Toujours des demandes, on est obligé de faire face à la demande.
Le seuil de tolérance, François Robert, à partir duquel on considère qu'on ne peut plus instruire normalement un enfant, c'est à partir de combien d'élèves ?
Je connais pas de normes ni d'État ni de normes UNESCO là-dessus, mais je dirais probablement un bon instituteur, il doit pouvoir se débrouiller avec une classe, je dirais 50, maximum 60, si c'est du même niveau. Si c'est multigrade, ça va être un petit peu plus compliqué,
ouais.
Mais si c'est une classe du même niveau, un bon instituteur expérimenté, s'il y a des tables bancs, s'il y a un tableau, s'il y a un peu de matériel, s'il y a un peu de bouteille aussi, il doit pouvoir se débrouiller avec 50 ou 60.
Ouais.
Au-delà, je pense que c'est mission impossible.
Au-delà, c'est mission impossible, au-delà de 50 ou 60. Je précise que quand on a préparé cette émission, nous avons appelé des directeurs d'école dans plusieurs pays, notamment République démocratique du Congo, qui disent « Ah non, chez nous, on a 75 élèves par classe, tout va bien, rien à signaler, pas besoin de témoigner. » Dans l'émission, voilà, sans commentaire. Merci beaucoup, François Robert, pour vos analyses.
Je vous en prie,
consultant en éducation, je rappelle votre blog, La République des Tables Blancs. Tables Bancs, La République des Tables Bancs. Merci beaucoup, François Robert. Vous nous appelez, les voisins, les voisines, on passe vos témoignages en quelques instants, en deuxième partie d'émission au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Abou Fofana, alors justement, vous qui êtes un spécialiste de la pédagogie, est-ce que les enseignants à l'heure actuelle, lorsqu'ils sont en formation pour enseigner, on sait qu'en Côte d'Ivoire, la formation est encore relativement bien organisée, est-ce qu'il y a des modules, il y a toute une partie de l'enseignement qui est axée sur les classes à gros effectifs, puisque c'est probablement ce qu'ils vont connaître la majorité de leur carrière?
Oui, c'est juste, mais malheureusement, dans les modules de formation, on n'a pas de module consacré à l'enseignement dans les classes effectives pléthoriques. Donc, ils sont formés dans nos instituts sont formés dans les CAFOP. Ils reçoivent un enseignement d'abord à effectif réduit. Ils sont très peu par classe. Hein. Mm-hmm. Et par la suite, ils vont en expérimentation dans des établissements où c'est les conditions idéales d'enseignement.
Ah oui.
Voilà. Donc, en réalité, ils ne sont pas confrontés aux grands groupes. C'est lors de la première prise de service qu'ils selon la localité dans laquelle ils sont effectués, en banlieue, en campagne, et ils se rendent compte que finalement, il y a cette réalité qui est là et ils se trouvent désemparés vis-à-vis de cette situation.
Un enseignant qui passe tout d'un coup d'une rentrée scolaire à l'autre de quoi? De 30 à 80 élèves, il dit quoi? Il fait quoi?
Mais voilà, c'est en cela que on essaie de pouvoir trouver des techniques ad hoc pour pouvoir aider ces enseignants-là, parce que sinon, au bout du compte, tout ce qu'ils vont faire, c'est de travailler avec une partie de la classe, les élèves qui sont soit devant, les élèves qui sont soit plus dynamiques, et puis bon, ils s'occupent plus du reste parce que l'effectif ne permet
justement,
pas.
Justement, on va donner des conseils, de vrais conseils pratiques, concrets dans cette émission en deuxième partie. Vous restez avec nous, Abou Fofana. Comment gérer une classe surchargée avec autant de pères Dieu qui vous fixent, qu'il y a d'étoiles dans le ciel? ciel. Parfois, la tâche semble insurmontable, c'est vrai. Les voisins et les voisines, si vous êtes enseignants, c'est le moment de poser vos questions. Au 33 1 84 22 71 71, on accueille aussi les parents et les lycéens.
Milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur RFI. 7 milliards de voisins, sujet éducation comme chaque vendredi. Nous parlons des classes surchargées avec de très nombreux messages sur les réseaux sociaux. Vous nous appelez, on vous donne la parole dans quelques instants, les voisins et les voisines. 33 1 84 22 71 71. L'Afrique subsaharienne est confrontée, c'est vrai, à une forte pénurie d'enseignants liée à l'augmentation régulière du nombre d'élèves, à la demande d'école et puis des enseignants qui chaque année aussi quittent la profession. Abou Fofana, vous êtes spécialiste des sciences de l'éducation à l'école normale supérieure d'Abidjan et vous avez recensé dans un guide les méthodes pour adapter son enseignement aux effectifs des écoles primaires en Afrique avec notamment le cas des classes de langue, comment apprendre le français ou une langue officielle quand on n'a jamais l'occasion de le parler en classe. Effectivement, c'est problématique. Le problème se pose aussi pour les maths. Écoutez le reportage au Tchad, N'Djamena de Mathias Ranako. Le Tchad est un pays où les premières classes de primaire sont particulièrement bondées. 85 élèves en moyenne pour des enfants qui découvrent l'école. Nous sommes à l'école primaire de Chagouavdar, dans la classe de CM2 de Ange.
Ange Ndokonouji Aladoum, je suis un instituteur chargé de cours à l'école Chagouavdar B. Ma classe est constituée d'environ 90 élèves, dont 46 filles et 44 garçons. La grande partie, je connais par le nom, mais pas tout le monde, comme c'est le début.
On va évoluer de mètre jusqu'au kilomètre. 20 mètres est égal à combien de kilomètres?
On ne peut pas refuser l'accès à l'éducation aux enfants. On est obligé de les accepter. Tellement qu'ils sont nombreux, il faut à chaque fois attirer leur attention, de suivre le cours. Un cours destiné à 20 élèves ou 25 élèves, ce n'est pas la même chose qu'un cours pour présenter à 90 élèves. Il faut un peu résumer le cours. Puis ceci, on se met à interroger tout le monde en classe. Ça ne va pas marcher. Suivre individuellement, ce n'est pas facile. Vous essayez de contrôler les élèves par banc, c'est-à-dire en leur posant des questions, ainsi de suite, et ça permet à l'enseignant de bien les contrôler. J'utilise par exemple beaucoup le procédé PLM. Par exemple, lorsqu'on est en calcul, je demande à chaque élève de prendre, par exemple, une feuille. Une feuille, il écrit dessus. Par exemple, je dis 2 mm est égal à combien de centimètres? Chacun écrit sur la feuille. Je dis montrer, il montre, je vérifie. Et puis, je fais des corrections, etc. Oui, c'est ça le procédé PLM.
Je place 0 ici et 2. Et je remplace les colonnes manquantes par les zéros.
Lorsqu'on prépare le cours, on est obligé de prendre en compte l'effectif. Et lorsqu'on corrige les cahiers, ça nous prend énormément du temps. Mais on essaie de faire de notre mieux pour corriger rapidement les cahiers.
On va passer au tableau, vous posez.
Une classe de rêve, vraiment. Il faudrait que l'effectif soit d'environ 25 à 30 élèves. Et bien équipés. Pour le moment, nous sommes très mal équipés. Il arrive des fois que les élèves sont obligés de venir rester par terre afin de copier le cours. Donc vraiment, ça ne va pas du tout.
Vos réactions, les voisins et les voisines, à ce reportage au Tchad au 33 1 84 22 71 71. On parle des classes surchargées sur le continent africain. Ça peut être ailleurs aussi, bien sûr. Abou Fofana, vous êtes spécialiste de cette question. Vous enseignez à l'école normale supérieure à Abidjan. On entendait le témoignage de cet instituteur qui parlait de cette méthode PLM. Alors, la martinière, ça veut dire quoi exactement?
Oui, le procédé de la martinière, c'est comme il a dit, hein, c'est de, dans un premier temps de donner une consigne. L'enseignant tape une fois sur la table. Au deuxième coup, ils écrivent. Au troisième coup, ils présentent la réponse. C'est ça le procédé PLM pour le
Donc
procédé de la matinée.
Ça permet d'interroger beaucoup d'élèves en même temps.
Ça permet de régulariser l'apprentissage, d'aller un peu plus vite. Je pense que c'est surtout ça.
Quels sont les conseils qu'on peut donner aux instituteurs qui nous écoutent, les conseils que vous avez mis en valeur dans votre guide pour enseigner à une si grande quantité d'élèves?
Oui, alors, bon, je me suis référé au procédé ad hoc, hein, c'était de voir en situation réelle comment est-ce qu'un enseignant chevronné arrivait à se tirer d'affaire. Donc, c'est ce que j'utilise et que j'essaie de théoriser, que je mets en pratique. Alors, ce que j'ai remarqué dans un premier temps, c'est que il y a cette façon de pouvoir attirer l'attention de toute la classe, parce que le groupe est important, donc il faut pouvoir mobiliser l'attention. Alors, cet enseignant avait deux techniques très simples, c'est-à-dire dans un premier temps, il commençait tous ses enseignements par un chant. Il chantait au début et à la fin, il y avait un chant aussi pour clôturer la séance. Donc, du coup, pendant un moment, les élèves ont le temps de récupérer, de souffler un tout petit peu pour l'activité suivante. Alors, il y a aussi cette façon de mobiliser l'attention en interpellant de façon collective l'ensemble des élèves, du genre « bouge, la classe qui répond B, allô, allô, j'écoute ». Alors, donc, cette petite technique permet de recentrer, de mobiliser l'attention des élèves un temps soit peu sur ce qui va suivre.
Ouais, il y a quelque chose d'un petit peu théâtral, hein, mais c'est très efficace.
Absolument, ça marche parce que sinon, du coup, ils sont pas intéressés, ils ne voient pas ce qui évolue. Donc, il y a cette façon de les ramener, les distraire dans le groupe pour pouvoir donc présenter l'activité. Donc, chaque fois que ça sera nécessaire, je conseille aux enseignants d'interpeller collectivement la classe. Quand il y a trop de bavardage, il y a des problèmes d'indiscipline, alors au lieu de frapper, par exemple, il faut interpeller. Alors, allô, allô, et toute la classe répond, j'écoute, et puis ben, voilà, avec les adultes, souvent on dit, est-ce que vous avez fini, ou on attend qu'ils finissent avant de prendre la parole. Mais avec les plus jeunes, c'est surtout ça, de les interpeller directement.
Il y a beaucoup d'enseignants qui pensent qu'il faut faire régner le calme dans sa classe par la terreur, surtout quand on a 90 élèves.
Absolument, c'est pas la meilleure méthode. C'est pas la bonne. Ce serait vraiment, au contraire, inhiber les possibilités de ces élèves, les comprimer dans un certain mutisme qui les empêche de parler. Il faut plutôt créer un cadre convivial, jovial, qui permette de travailler tout en jouant.
Oui, mais c'est pas le foutoir avec une centaine d'élèves, un cadre convivial, jovial.
Non, pas du tout, parce que je dis, c'est des périodes de d'interpellation. Avant de passer à l'activité suivante. Sinon, les élèves, ils ne suivent plus.
On interroge un élève quand on en a 90. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il donne la bonne réponse.
Alors, quand il donne la bonne réponse, ce sera maintenant de faire une répétition individuelle en chaîne. Parce que là aussi, avec le grand nombre, il est difficile d'interroger l'ensemble des élèves. Donc, une répétition individuelle en chaîne pour permettre à chaque élève de verbaliser donc la réponse bonne qui est donnée. Et donc, par la suite, on pourra aussi interroger par rangée.
Ouais.
Pour aller un
et
peu
en même
plus
temps, on félicite celui qui a bien répondu.
Absolument,
du coup.
Absolument, parce que c'est là aussi le projet de que l'enseignant pourrait crier dans sa classe, parce que l'élève, à la limite, le tout petit n'a rien à faire dans une classe, il sait déjà parler sa langue et tout ça, et il n'en a rien à faire. Mais là, on crée un projet pour lui, et le projet ici, c'est de recevoir les félicitations, les encouragements de la classe.
Ouais, et un objectif à réaliser. Vous nous appelez, les voisins et les voisines, 33 84 22 71 71. On accueille Ahmed, 34 ans, qui est enseignant à Porto Novo, au Bénin. Bonjour Ahmed.
Oui, bonjour.
Soyez le bienvenu chez 7 milliards de voisins. Vous avez une classe de CE2, je crois, 79 élèves.
Oui, effectivement, j'ai une classe de CE2 qui compte 119 élèves.
On vous écoute.
Bon, dans ma classe, l'effectif, selon moi, est déjà un effectif assez pléthorique, dans la mesure où circuler dans la classe constitue une activité assez éprouvante, dans la mesure où les classes d'abord sont vraiment exiguës, et qu'il y a aussi le problème d'aération. Et ça se croit également, quand vous donnez les devoirs de classe, il faut nécessairement corriger les cahiers de devoirs. Et se mettre à corriger les cahiers de devoirs de plus de 79 élèves par jour n'est pas souvent de façon aisée. Bien que des fois même, je les corrige dans la soirée, je ne termine pas, je me lève le lendemain à 4h du matin pour terminer avant d'aller au cours à 7h.
Ah oui, pour corriger la fin des cahiers.
Oui, pour corriger les cahiers, c'est une correction qu'on fait, de façon journalière.
Mais donc, c'est assez,
les programmes scolaires qu'on vous a assignés en tant qu'enseignant, Ahmed, ils tiennent compte de cette réalité-là, que vous êtes obligé de vous lever à 4 heures du matin pour terminer de corriger les cahiers, que vous ne pouvez même pas circuler dans la classe?
Effectivement, les programmes en vigueur actuels au Bénin, c'est les programmes par compétences, c'est-à-dire les APC, les approches par compétences. Normalement, ces programmes par compétences, si nous devons réellement les appliquer dans chaque salle de classe, nous ne devons pas avoir un effectif qui va excéder 25 élèves. Là, le maître de la classe sera en mesure de suivre chaque enfant. Mmh. Parce que pourquoi le programme nous demande de suivre chaque enfant et inculquer à cet enfant au moins quelques bribes de connaissances pour l'aider au lendemain de son cursus scolaire de pouvoir s'autogérer, c'est-à-dire de se prendre en charge. Voilà que nous n'arrivons pas à le faire avec des effectifs rhétoriques.
Ahmed, en tout cas, vous avez énormément de mérite d'enseigner à 79 élèves avec les difficultés que vous connaissez. Vous avez l'air en même temps très impliqué vis-à-vis de votre mission, non?
Effectivement.
Qu'est-ce qui vous donne le courage le matin à 4 heures du matin pour terminer la correction des cahiers alors que vous allez retrouver ces effectifs pléthoriques?
Bon, c'est l'amour des enfants, l'amour que nous avons quand nous sommes en face des enfants. Parce que nous sommes vraiment sidérés, parce que ces enfants viennent d'abord de divers horizons. Et quand ils viennent aussi, bon, il y a comme un climat de confiance qu'il y a entre eux et moi. Donc c'est ça qui m'amène à surmonter ces difficultés-là.
C'est ça qui peut être extraordinaire, un climat de confiance malgré ces difficultés. Merci beaucoup Ahmed. Et d'ailleurs, je voudrais citer le témoignage d'Ibrahim qui écrit extrêmement bien le français. Il n'y a pas une faute d'orthographe, qui nous dit: moi j'étais dans une école publique, on était 204 élèves dans la salle. En plus, on n'avait pas de banc pour s'asseoir. Je partais le matin avec un morceau de brique pour m'asseoir dessus. On ne pigeait rien, la chaleur nous étouffait. Voilà. Aujourd'hui, il écrit parfaitement bien sur les réseaux sociaux. Écoutez, Abou Fofana, je voudrais peut-être que vous nous expliquiez d'abord comment est-il possible qu'un programme scolaire soit décidé pour des classes de 25 élèves dans un pays où on sait pertinemment que au mieux on s'en tire avec 50 élèves.
Alors je veux dire que c'est la tendance en éducation. En ce moment, c'est l'approche par compétence.
Qu'est-ce que c'est exactement l'approche par compétence? C'est une invention des bailleurs de fonds et du Nord. Non, mais disons les choses clairement.
On estime que dans le milieu éducatif en ce moment, il vaut mieux former par compétence. Ce serait plus intéressant que de former par objectif simplement. C'est-à-dire, on donne des connaissances aux élèves qui n'arrivent finalement à rien faire avec. Donc, il faut plutôt orienter les objectifs finalement qu'on a développés. Il faut pouvoir les réinvestir dans la vie de tous les jours. C'est ça l'approche par compétence. Mais cette approche par compétence aussi est accompagnée d'une certaine organisation de classe, de certaines indications par rapport à du matériel didactique qui souvent manque dans nos pays en voie de développement. Mais
c'est-à-dire qu'en fait on a bâti un système qui peut absolument pas fonctionner dans la réalité.
Ça marche un tout petit peu. Il faut pas aussi non plus croire que ce n'est pas possible du tout, parce que tout est une question de conception de l'apprentissage qu'on voudrait faire. Donc là, dans ce cas, on peut y arriver avec le peu qu'on a.
Question très pratique, un enseignant qui n'arrive même pas à circuler dans sa classe, vous avez une recette miracle? Rechanger, il y a un moyen de disposer complètement la classe autrement?
Alors, c'est ce qui est souvent proposé dans la littérature sur la pédagogie des grands groupes, c'est-à-dire de une organisation plus flexible de l'espace et du temps dans la classe, mais souvent qui est difficile à mettre en œuvre, parce que c'est justement pour pouvoir résoudre cette question de lourdeur de la classe, finalement on est confronté au fait qu'on ne puisse pas déplacer ni les tables bancs ni sortir hors de la classe, souvent qui devient difficile à réaliser.
33 1 84 22 71 71. Nous accueillons un lycéen, Yves, qui est à N'Djamena, au Tchad. Bonjour Yves.
Oui, bonjour.
Yves, on a souligné tout à l'heure le cas du Tchad, qui est vraiment un pays problématique en termes d'effectifs pléthoriques. Et d'ailleurs, les internautes le soulignent également. Alors vous, que se passe-t-il? Vous êtes lycéen. Quel est l'état de votre classe?
Oui, bon, je suis au lycée Félix-Hugo de N'Djamena. Oui, nous sommes 162 en classe de la terminale. Et donc, pour suivre le cours, il faut être au moins à 4h, 5h du matin pour être prêt pour suivre le cours. Et donc, des prépaires tu es déjà à côté de la fenêtre pour récolter le costard, ce sont 4 le cadre blanc ensemble. Il n'y a plus de la place. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On est obligé de revenir. Dans l'après-midi, nous inscrire dans les cours de soutien pour affronter le bac, car nous sommes en train de l'examen et c'est difficile, quoi.
Mais alors, ces cours de soutien, du coup, qui vous permettent de rattraper ce que vous n'avez rien pu capter dans les classes à effectif pléthorique, ils sont payants ou pas, ces cours de soutien?
Oui, mais les cours de soutien, c'est des professeurs qui tiennent dans la matinée. Mais comme eux, nous y ont constaté le nombre des élèves, ils sont...
Ouais. Alors, je suis désolée, la ligne vient de couper. Abou Fofana, vous connaissez ce phénomène, la conséquence des effectifs pléthoriques, c'est que les familles qui le peuvent payent des cours de soutien par soit les maîtres d'école de l'école en question ou d'autres maîtres.
Absolument, je dirais que c'est une solution aussi, parce que ne pas accompagner les élèves à la sortie des classes dans ces conditions-là, c'est dramatique. Donc absolument, il faudrait que les parents puissent trouver des répétiteurs à la maison pour pouvoir accompagner ces enfants. Sinon, à l'école, souvent les enseignants donnent des cours de soutien, ce qui n'est pas gratuit.
Alors, mais 33-1-84-22-71-71. Que dites-vous sur les effectifs pléthoriques dans vos écoles? On est en ligne avec Charles, 28 ans. Vous êtes enseignant dans une école privée à Bamako, Mali. Bonjour Charles.
Bonjour Emmanuel.
Nous vous écoutons Charles. Vous êtes à l'antenne chez 7 milliards de voisins.
Oui, en fait, moi je suis enseignant dans une classe de CE2 avec un effectif de 64 élèves. Dans une petite classe où on a du mal même à circuler. C'est un peu bizarre. On fait part de ça à l'administration. Ils sont même au courant de l'effectif, mais ils prennent ça comme ça. En fait, ils ne sont pas là pour l'instruction de l'enfant en question.
Ah, ils sont là pourquoi alors?
Mais plutôt que je fais de l'argent.
Ah oui, d'accord, oui, parce que vous êtes dans un établissement privé. Mais alors attendez, que disent les parents quand ils découvrent qu'ils payent l'école pour leur enfant qui est dans une classe, parce qu'en CE2, on est petit hein, quand même, dans une classe de 64 élèves.
Une petite classe de 64 élèves. Une
petite classe de 64 élèves, comme vous dites, oui.
Où le maître même a du mal à circuler.
Oui.
Souvent, il y a les conseillers pédagogiques qui viennent pour les suivis. Bon, quand ils viennent, l'administration leur donne des petits sous, et puis bon, ils prennent ça comme ça, ils vont faire le rapport au CAP, qui est le centre d'animation pédagogique.
Mais les parents, que disent-ils?
Bon, les parents, ils sont conscients de la situation, souvent ils viennent solliciter l'aide des maîtres pour des cours à domicile.
Ah, voilà. Donc on retombe effectivement dans cette école parallèle avec les fameux cours du soir. Merci beaucoup Charles pour ce témoignage. Vous continuez de nous appeler. Il nous reste quelques minutes. Hein. Alors c'est le moment de vous décider pour intervenir dans l'émission 33-1-84-22-71-71.
Yeah, in defense of my art, being broke ain't an option unless you fucking stop. In defense of my art, running my own race, not checking on your moms, what's up? In defense of my art, I am Nat Nagasa's Harlem Renaissance. What? In defense of my art, you don't know what I'm talking about, just bounce.
Yeah. In defense of my art. Talk when you shine your light. All I know is stars never work to shine bright. Alright. In defense of my art. In defense of my art. People hate and love what they can't be. I'll never lose sleep just cause they ain't me. Nah.
Fresh out the gate, I was writing for a living. Bills wasn't late, got my jobs from the lyrics, yeah. And I spit it like I had an apple stuck in my Adam's apple evenings. I had them jumping out windows, had them tripping over eyes for the vision. No charts, but I chartered flights past city limits. City critics say I'm ACDC, but they ain't seeing me. I'm ANC and Run DMC. Mr. Weird T, been like world since been loud and been trying to blow up the world T. Back when Hun C was shaving off Run's T, was making brows uncomfy with the smart shit. You could hear crickets from how they didn't feel it. No matter how you spin it, I had a map sixes. Kill a pimp from the fuck I wasn't giving. I tell him you should listen, shut up and bounce with it.
Hey.
Yeah.
People
always talk when you shine your light.
All I know is stars never work to shine bright. All right. And you know it's true, yeah. Yeah, people hate and love what they can't be, but I'll never lose sleep just cause they ain't me. First shot the gate, I was live from the baseline. They didn't take to it, classics take time. I found my lane out in Scandinavia. Now we stay in white hoods like hate crimes. Being famous, I want paper, but more greatness. I'm here trying to make art, not make it. They say it's weird, I don't sound like Mavis. But I'm not Cambridge, neither a painted zebra, a coconut, I'm Joseph, some D1. What a claim, Jesus, I make genius. Photos of me with the polo on, clean cut. GQ with an IQ, I think, yup. I give you life through haikus that mean much. Go seek mine on iTunes, no free lunch. Tell them if they ask you why, shut up your lip.
Un titre de circonstance, In Defense of My Heart, To Me, le Sud-Africain. Enseigner, c'est un art, une science ou un artisanat? Abou Fofana, vous diriez quoi?
Alors, c'est toute une combinaison de tout ça. C'est une véritable alchimie, l'enseignement.
Oui, j'allais dire une cuisine, mais vous le dites beaucoup mieux. Une alchimie, l'enseignement. Un témoignage sur le fil Facebook de Sekou qui nous dit le cas du Burkina Faso est révélateur. Moi-même, j'ai enseigné à des classes de 125 élèves. L'évaluation dans ces conditions est un vrai casse-tête. Comment on évalue?
Absolument. Il y a deux. Je distinguerai l'évaluation à l'oral et l'évaluation à l'écrit. Alors, il est clair que à l'écrit, pour s'en sortir dans la correction des copies, bon, il serait intéressant de privilégier des devoirs en commun, des devoirs en groupe. Parce que sinon, comme l'a dit l'enseignant, il passera toute sa soirée, la matinée, en train de corriger. Donc, il faut peut-être privilégier cela. Sinon, soit faire des évaluations... je dirais périodique et par groupe d'élèves, ça c'est à l'écrit. Maintenant, ce qui est à l'oral, il faut, je pense, au cours de l'évaluation, surtout faire de sorte que cette évaluation-là soit l'affaire de tous. Mmh. C'est-à-dire que lorsque l'évaluation, une bonne réponse est donnée, faire participer la classe, toute la classe à cela, c'est-à-dire à la répétition de la bonne réponse, puisque j'ai pris l'exemple des classes de langue pour que ça puisse rester.
Ce serait la même chose en mathématiques, d'ailleurs.
En mathématiques, ouais.
Aussi. Est-ce que les enseignants utilisent suffisamment ce qu'on appelle les pairs, P-A-I-R-S, c'est-à-dire, par exemple, les bons élèves qui peuvent être tête de groupe et former des groupes comme ça, dans la classe, autour de tables, et qui eux-mêmes font un peu le trait d'union entre l'enseignant et les élèves les plus faibles?
Alors, c'est ce qui avait été conseillé justement dans les premiers guides d'enseignement dans les classes effectives pléthoriques, mais on se rend compte qu'il est difficile de pouvoir mettre ça en place, parce que déjà avec le nombre d'élèves dans la classe, impossible de pouvoir constituer des groupes de travail.
Il n'y a pas assez de place, c'est ça.
Il n'y a pas assez de place, donc la disposition, l'idéal c'est la disposition frontale, donc pas de possibilité de faire des groupes. Deuxièmement, c'est que l'élève, quel élève on prendra comme tête de groupe, dans la mesure où ils ont tous beaucoup à apprendre, donc du coup il devient difficile de pouvoir conseiller cet enseignement mutuel entre pairs, comme vous le dites, qui est difficile à mettre en place.
Les instituteurs qui nous écoutent à l'heure actuelle, puisque la majorité sont des hommes, hein, il faut le reconnaître, et qui se disent mais ça n'est pas possible, j'ai trop d'élèves, malgré tous les bons conseils qu'on peut me donner, j'ai trop d'élèves. Quelle raison de ne pas se décourager? Parce qu'en même temps, quand on lit certains témoignages d'anciens élèves qui ont été à 200 dans une classe et qui parviennent à bien écrire, à témoigner, on se dit que malgré tout, forcément, ils n'ont pas abandonné.
Absolument, c'est en cela qu'il faut donc encourager et féliciter tous ces enseignants. Je suis un peu de même groupe, hein. J'étais dans une classe de CE2 de 71 élèves.
Ah, vous-même?
Oui, moi-même. Alors bon, mais si j'ai pu m'en sortir, mais vous me direz combien parmi ces 71 l'ont pu faire des études supérieures aujourd'hui. Bon, c'est vrai que... Au-delà de, je ne suis pas là pour faire l'apologie du grand groupe. Hein. C'est vrai que c'est une question à laquelle il faut trouver des
qui pourrait la faire d'ailleurs.
Ça arrive. Il y a des écrits où on pense que le nombre d'élèves influence très peu sur les résultats. Mais je pense que l'idéal ce serait d'éclater ces classes, de faire des groupes plus petits pour pouvoir faire un meilleur enseignement. Mais quand on ne peut pas le faire, c'est dans cette perspective-là, je me retrouve. On ne peut pas le faire, donc on essaie de voir quelle technique simple pour pouvoir attirer l'attention, puisque c'est de cela qu'il est question, mobiliser l'attention pour pouvoir faire travailler le maximum d'élèves.
Un dernier conseil pour la route, comme on dit, aux enseignants qui nous écoutent.
Alors, donc, c'est ce que je dirais. Pour, il faut pouvoir créer, mobiliser l'attention des élèves sur ce qui va être fait. Alors, donc, technique simple, je dis en cela, c'est des procédés d'interpellation collective. Toujours attirer l'attention de l'élève, faire des breaks pour que tout le monde se concentre sur ce qui va être fait. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, il faut pouvoir créer un projet pour les élèves, pour chaque élève. Le fait de pouvoir participer, de prendre la parole dans la classe, doit se suivre d'une petite récompense, ne serait-ce que des félicitations. Et là, ça amène un bon nombre d'élèves à vouloir prendre la parole, à pouvoir parler. Et pour terminer, c'est ce que je disais, si le projet, il est clair, ça dit que les élèves savent qu'en prenant la parole, ils auront des encouragements, des félicitations de la part des enseignants. En même temps, il faudrait que l'enseignant puisse leur rendre bien cette... ce qu'ils attendent en retour, c'est-à-dire ces félicitations, ces encouragements.
Un élève qui est dans une classe de 90, il peut venir le matin avec la joie au cœur à l'école. C'est possible.
C'est possible parce que c'est toujours un moment de retrouvailles avec les copains et tout ça. C'est éviter surtout que ça devienne, c'est-à-dire qu'ils viennent à l'école simplement pour les amis, pour les copains. Maintenant, il faut pouvoir mobiliser son attention sur ce qui va être fait.
Merci beaucoup Abou Fofana. Vous avez édité ce guide pour les professionnels, pour les enseignants, qui est publié chez l'Harmattan. Adapter son enseignement aux effectifs des écoles primaires en Afrique, aux effectifs pléthoriques. Vous l'avez dit, on a cessé de le répéter pendant l'émission. Merci à vous les voisins, les voisines, pour vos témoignages. Et à l'équipe, Cécile Lavolo, Romain Dubrac, Jonas Malé-Solars, Arnaud Rosenstingel. Pour toutes vos réactions, vous pouvez évidemment nous écrire à 7milliards@rfi.fr. Lundi, 7 milliards de voisins, les problèmes de voisinage. Et oui, avec la croissance des villes, qui n'a pas eu un accrochage avec son voisin? Comment résoudre ces conflits du quotidien et vivre en bonne entente avec ses voisins? Évidemment, on attend vos anecdotes, vos témoignages et vos solutions. 30